Oasis de la nourrice. Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète, tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. À tous ces citoyens qui font le choix de l'évidence, Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui ? Situé en Provence, l'Oasis de la Nourrice est un domaine de 2 hectares fertiles. Ancienne ferme en polyculture, elle se compose de 2 maisons d'habitation, de diverses dépendances agricoles et de prairies à cultiver. L'Oasis de la Nourrice se compose d'une petite équipe dynamique qui s'applique à développer une production de fruits et légumes en vente directe et en cueillette à la ferme. Par leurs différentes activités mises en place, ce collectif souhaite développer des ateliers de sensibilisation citoyenne sur les grands enjeux de la transition écologique. Assis sur une botte de paille, rencontre avec Nathalie, Romain et Christelle qui créent pour nous une dimension visuelle du lieu. Ok, les doigts se dirigent tous vers Christelle.
Raconteuse. Oui, moi je suis la raconteuse. Alors là, on est un jour de fin mai. Il y a un joli soleil, un peu de fraîcheur du matin. On est sous un immense tilleul qui est un peu l'arbre mère de l'Oasis, qui nous apaise et qui nous protège. Et tout autour de nous, on a tout un tas de champs avec des espigaux en bon provençal qui bougent dans le vent comme ça. Et puis on a la Sainte Victoire qui se détache derrière les arbres, la montagne qui protège la vallée de l'Arc. Et puis ensuite, on a tous les arbres du ripisylve de l'Arc, donc tout autour de la rivière, qui bordent notre domaine. Donc tout un tas de couleurs de vert, du plus clair au plus foncé, et de feuilles différentes, et d'arbres qui s'élancent vers le ciel.
Donc bien entouré de plein de beauté, des merveilles de la nature. Donc un domaine, c'est pas un château dont on va parler dans cette émission, mais c'est un oasis. Alors l'oasis, on va peut-être définir ce terme, parce qu'il y a plusieurs types d'oasis. Qu'est-ce que c'est qu'un oasis pour toi ? Quelle est votre vision de l'oasis ? Et pourquoi avoir lancé un projet d'oasis ici, près de Aix-en-Provence ?
Alors déjà, on dit une oasis. Moi aussi, je disais un oasis jusqu'à il y a peu de temps. Et c'est venu du fait qu'un des personnages qui a inspiré vraiment mon parcours et ma transition de vie, c'est Pierre Rabhi. Et quand je l'ai contacté directement, en fait, et rencontré pour lui parler de mon rêve d'un lieu qui accueille des jeunes pour de l'insertion et à la fois des aînés aussi, voilà, c'était un peu l'ADN du projet initial. Il m'a tout de suite dit, ce que tu veux faire, c'est vraiment une oasis. Et je te mets en lien avec notre équipe pour que tu puisses bénéficier de l'aura un peu de tous les projets oasis, des pictogrammes, et peut-être ça aidera aussi à certains égards, et ça a été le cas. Et l'éthique d'une oasis, il y a 5 piliers majeurs qui vont être tendre vers une forme de souveraineté alimentaire au maximum, la sobriété dans l'utilisation des énergies et globalement la sobriété, et puis ensuite la mutualisation et le partage de tout un tas d'espaces ou de ressources. Il y a aussi d'aller vers une école de la collaboration, donc tout ce qui va être la gouvernance partagée et ou participative. Et le dernier pilier, c'est l'ouverture sur le monde. Il ne s'agit pas d'être une communauté qui vit en autarcie et renfermée sur elle-même, mais au contraire, d'être vraiment un carrefour et d'être en lien avec son territoire, de revenir à quelque chose d'un peu pragmatique et qui a du sens. Et donc ces 5 piliers-là, ils étaient vraiment très, très parlants pour moi. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on a été labellisé Oasis très tôt dans le projet. Et que quand Nat et Romain ont rejoint l'aventure, tu vois, pour leur tendre le micro aussi, ça, c'était des valeurs qu'ils partageaient et qu'ils avaient envie aussi de promouvoir. Donc voilà. Voilà ce que c'est une oasis au sens colibri du terme. Et puis, voilà, je crois que c'est un lieu où on vient se ressourcer, se nourrir, comme dans le désert, se rencontrer aussi, un carrefour. Et je crois que c'est ce qui se passe petit à petit ici.
Alors, l'oasis répond à des demandes, à des besoins. Vous êtes tous en transition, si j'ai bien compris, cet endroit relativement récent. Mais à la base, vous n'êtes pas du tout dans le domaine du maraîchage ou en tout cas dans cet univers-là. Ça répond vraiment à un appel intérieur. J'aimerais que chacun puisse me parler du pourquoi et à quoi est-ce que ça s'oppose. Pourquoi avoir voulu aller vers ce type de projet ?
Alors moi, à la base, j'étais infirmière vétérinaire depuis une dizaine d'années en cancérologie, donc quelque chose de complètement différent. Et je me suis tournée vraiment donc vers le maraîchage et vers une vie plus simple parce qu'à un moment donné dans ma vie j'ai eu une prise de conscience, enfin, j'ai fait aussi un burn-out qui m'a un peu motivée là-dessus, et une prise de conscience que le monde tel qu'il est, c'est plus possible, ce sera plus possible, et surtout aussi pour les générations futures, c'est pas ça que je voudrais pour mes enfants. Et ça nous a vraiment motivés et on s'est dit stop à la consommation un peu et on a vraiment l'envie de mutualiser et de vivre plus simplement en fait et de prendre le temps de vivre.
Romain, je vais me tourner vers toi avec cette légende qui est celle du colibri. On va la raconter rapidement. C'est Christelle qui va te la raconter et c'est toi qui va me dire ce que tu vois dans les flammes. Donc quelle est cette légende ?
Alors, un jour, dans une immense forêt, il y avait un brasier ardent et des flammes de 10 mètres de haut. Et puis, tous les animaux étaient paniqués et couraient en tous sens. Et à un moment donné, donc un tout petit colibri allait vers une petite flaque, prendre 3 gouttes et aller sur l'immense brasier et jeter ces 3 gouttes et faisait des allers-retours comme ça. Et à un moment donné, un autre animal, je crois que c'est le tatou, s'arrête et lui dit « Mais petit colibri... qu'est-ce que tu fais ? Tu vois bien que ce que tu fais, ça sert à rien. » Et de la réponse légendaire qui était « Je sais, mais je fais ma part. » Voilà.
Alors, les flammes. Alors, aujourd'hui, la maison brûle. Mais qu'est-ce qui brûle ? Qu'est-ce que toi, tu vois dans cet incendie, Romain ? En tout cas, quel est l'aspect de ce qui brûle qui te touche le plus ? Et quelle est la goutte d'eau que tu aimerais pouvoir déposer sur ces flammes ?
C'est une question qui est quand même très délicate, parce que la maison brûle, ça veut tout dire... Ça fait évoquer beaucoup de problèmes. Effectivement, le premier problème, c'est la planète qui part en fumée, dans tous les sens du terme, donc aussi bien la faune que la flore. Mais il y a un autre problème par la maison brûle, c'est qu'aujourd'hui, à mon niveau, car mon expérience est quand même légèrement différente, je suis le seul ici qui actuellement est encore en train d'avoir une activité salariale dans le autre que la nourrice. Pour moi, c'est tout le système tel qu'on le connaît qui est en train de partir littéralement en fumée. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, donc les flammes, ce que ça représente, ça représente le danger imminent que la planète subit, ou du moins vit actuellement. Mais aujourd'hui, il est véritablement temps, effectivement, de se demander et d'agir pour léguer quelque chose aux générations qui vont venir derrière nous. Et surtout quelque chose qui peut durer, qui ne sera pas juste un feu de paille.
Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
Donc on se retrouve dans l'oasis de la nourrice, je le disais avant, près de Aix-en-Provence. Vous êtes un petit collectif de 3 personnes hein, dans ce lieu, plus le petit garçon, plus des chevaux, plus des ânes, plus un chien, des chèvres. Donc finalement, vous êtes plein, en tout cas plein d'êtres vivants à peupler hein, ce lieu. J'aimerais un peu comprendre comment est-ce qu'on en vient à rendre ça réel. Parce que beaucoup de gens rêvent de ça, rêvent de ce mode de vie, rêvent de cette transition. Mais il y a des réalités auxquelles on n'a pas toujours conscience. Donc j'aimerais peut-être que dans cette émission, on puisse amener des clés de compréhension, qu'on parle un peu du process, mais aussi qu'on amène un petit peu le côté administratif, économique et financier. Pour tous ceux qui, eux aussi, je me rends bien compte que ma vie est un non-sens, je me rends bien compte qu'il faut être plus en cohérence et mettre plus de sens au centre de ma vie. Par quoi je commence ?
Alors, moi je dirais, je commence par travailler sur moi-même et aller déloger à l'intérieur de soi toutes les peurs qui empêchent les transformations que tout humain doit vivre dans une vie humaine, en fait. Et puisque je suis à l'initiative du projet, je peux juste témoigner de ça. À un moment donné dans ma vie, j'étais face à une transition, je me séparais de mon mari, etc. Et ça a été le moment pour moi de me jeter à l'eau, vraiment, de sauter dans le vide, sans aucune garantie. Donc il n'y a pas de filet dans ce genre de transition. La seule chose qui m'a permis de passer le cap, ça a été de me faire confiance, de me dire c'est ça qui est juste. Je le sens, ça vibre à l'intérieur de moi, dans chaque cellule, et c'est pas juste mental. Donc, soit j'ai peur et je le fais pas, soit je me dis que c'est ça et donc ça va bien se passer.
Cette notion de sauter sans filet et laisser le filet apparaître.
C'est ça. Je crois que là, on touche presque à ce qui a trait à la spiritualité, ou en tout cas à notre connexion au vivant et au sens de nos vies humaines. Mais je crois que c'est ça, une des premières clés, c'est d'aller regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui me fait peur dans la rencontre avec l'autre, dans la collaboration? Parce qu'on nous a un peu dressé à être plutôt en compétition qu'à se dire, mais non, en fait, ça peut marcher de collaborer entre êtres humains et de se faire confiance. Et puis pareil avec le système aussi, moi je peux témoigner de ça, c'est que à partir du moment où j'ai vraiment fait ce travail de me dire ben on y va, on va chercher un lieu et puis advienne que devra, toutes les portes petit à petit se sont ouvertes alors que c'était impossible sur le papier. On est en train de rendre possible ce qui paraissait strictement impossible à tout égard, sur le plan administratif. À l'époque, j'étais pas du tout agricultrice, donc je devais pas avoir accès à de la terre agricole. J'avais pas du tout les moyens financiers d'acheter le domaine. Et toutes ces contraintes-là, j'étais pas encore divorcée en communauté des biens, voilà, mais les avocats, les notaires me disaient, non, vous pourrez pas acheter. Et je leur ai dit, ben, je crois que si, en fait. Je crois que si, c'est ça, et qu'il va y avoir à un moment donné un moyen. Et la vie s'est chargée à chaque fois de fournir une forme d'abondance et de proposer des solutions. Et je peux que témoigner de ça. Je ne savais pas à l'avance ce qui allait se passer et quelles allaient être les opportunités. Tout ce que je savais, c'était que c'était ça. Et ben, du coup, j'ai fait confiance. Et petit à petit, à chaque étape du chemin jusqu'à aujourd'hui, les solutions, elles arrivent et les opportunités arrivent. C'est pas simple. C'est d'une complexité sans nom sur tout ce qui est le montage juridique, administratif, fiscal, légal, etc., économique. Mais à chaque fois, les solutions arrivent par elles-mêmes.
Je veux bien qu'on parle de ces différentes étapes, mais définis-moi le projet tel qu'il a été conçu à la base.
Quand on a fait une campagne de crowdfunding il y a quelques mois, j'ai écrit, quand j'avais 15 ans, je dessinais déjà les plans d'un lieu qui accueille des personnes qui ont besoin de se retrouver elles-mêmes, en fait, et des personnes fragilisées. Ben voilà, c'est ça l'ADN du projet, c'était mon rêve de créer un lieu qui permette à des personnes d'aller mieux et de trouver qui elles étaient, et en lien avec la terre et les animaux. Voilà, l'ADN profond, c'est celui-là. Après, ça petit à petit, ça a évolué, ça prend des formes un peu différentes. J'ai appris la patience aussi. Et puis après, ben, maintenant, on est en co-création. Donc, il faut que ça devienne un rêve commun. Donc, ben, on est toujours en discussion ensemble. Et puis, avec les personnes qui viennent de l'extérieur maintenant, etc. Sur c'est quoi le rêve. C'était l'occasion de la soirée d'hier soir, par exemple. Quel est le rêve d'Oasis pour l'avenir? Et c'est comme ça, en fait, que ça se manifeste. Concrètement. Ouais.
Quand on a fait ce travail sur ces peurs dont tu parlais, quand on a défini sa vision, son projet, reste maintenant à trouver un lieu. Et tu parlais aussi du côté administratif par rapport à ta formation, hein. Donc tu savais aussi que tu allais avoir un côté de maraîchage, donc il fallait une formation qui te permet de pouvoir acheter ce lieu. Comment tu as mis tout ça en place ?
Alors ça a été pas dans cet ordre-là. Moi j'ai trouvé le lieu très tôt, donc il y a plus de 4 ans maintenant. J'ai mis presque 2 ans pour l'acheter. Ensuite presque 2 ans pour trouver des partenaires co-créateurs. Et au moment de l'acquisition, en fait, j'étais pas du tout agricultrice. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir la mairie parce que je voulais vérifier si on aurait leur soutien et s'ils étaient OK pour l'implantation de ce type de projet. On est quand même dans une zone semi-rurale, un peu traditionnaliste, donc c'était pas gagné d'avance. Et là, c'est le pchit-pchit de la vie qui a fait que Madame le maire, c'était mon ancienne prof de maths, et que elle m'a vu arriver, elle se souvenait de moi, et elle m'a dit « Ah mais oui, mais carrément, elle était fille elle-même d'agriculteur, sa famille possède les terres un peu autour ». Et elle a trouvé ça super que la nourrice redevienne une vraie ferme agricole. Et j'étais pas encore partie pour me former en maraîchage, ça c'est venu récemment. Et j'ai fait une formation l'année dernière dans ce sens. Donc au moment de l'acquisition, si tu veux, j'étais pas du tout agricultrice. Ce qui s'est passé, c'est que dès lors qu'on avait le soutien de la mairie, La SAFER qui m'a téléphoné pour savoir qu'est-ce que je voulais faire du lieu et pour voir s'ils préemptaient ou pas. En vérité, ils avaient eu comme ordre, entre guillemets, de laisser passer la vente. Pour cette raison-là, en fait. C'est vraiment les concours de circonstances et les synchronicités. Voilà.
Est-ce que tu savais aussi, dès le départ, que tu voulais y mettre une dimension collective ?
Alors, moi, j'ai acheté ce lieu, en fait, avec un membre de ma famille, au tout début. Très rapidement, il s'est avéré que c'était pas son rêve, finalement, et qu'il avait besoin d'être plus nomade et libre que de s'attacher à une terre. Et du coup, c'est le moment où j'ai passé à peu près 18 mois à chercher des co-créateurs qui puissent racheter ses parts, en fait, et rentrer sur le projet. Pour moi, c'était une évidence depuis le départ que c'était pas du tout faisable de le faire seul et pas du tout souhaitable. La seule chose, c'est que nécessité fait loi. Donc, à l'époque, je suis pas partie chercher un groupe de co-créateurs. J'ai commencé par trouver la terre parce que il fallait que je me pose quelque part suite à la vente de ma maison, moi aussi, et que ça s'est fait dans ce sens-là, quoi. Voilà.
Comment vous avez embarqué dans l'aventure de la nourrice ?
Alors du coup, nous, on était à la recherche d'un lieu, mais plutôt classique. Ouais. Une maison, faire un peu comme tout le monde. Donc on a visité quelques maisons et en fait c'était à chaque fois des grandes maisons avec des tout petits jardins et nous c'était exactement l'inverse qu'on voulait, une petite maison mais un grand jardin. Ça allait pas du tout et je me souviens d'un trajet en voiture où je disais à Romain mais en fait ce qui serait super c'est une grande ferme avec plusieurs familles et que chacun puisse amener ses compétences. Il y en a un qui ferait du maraîchage, un qui ferait, j'en sais rien, du pain, etc. Et que ce soit une sorte de petite communauté, une petite tribu, en fait. Et puis, on était un peu désespérés, on va dire, parce qu'on a visité pas mal de maisons. Et j'étais sur Facebook, je naviguais, et d'un coup, je vois une annonce d'Écolibri, parce que j'étais abonnée à leur page. Et là, c'était l'annonce de Christelle qui cherchait désespérément des co-créateurs. Et j'ai tout de suite appelé, j'en ai parlé à Romain forcément avant, et on a rapidement appelé et rencontré Christelle.
Okay. Et donc là, vous choisissez de racheter des parts et vous rentrez dans l'aventure.
Ouais, c'était le coup de cœur. Je pense qu'en même temps, n'importe quelle personne qui vient ici a le coup de cœur, c'est sûr. Après... faut aller plus loin que ça, c'est pas juste parce qu'on aime le lieu qu'il faut venir. Ça engage à beaucoup de responsabilités quand même, faut le savoir. C'est beaucoup d'entretien aussi, donc seul, ce que Christelle a disait un petit peu, seul, ça fait beaucoup trop pour une personne.
En fait, je pense que ce que Nat a essayé de dire, c'est que au moment où on est arrivé, à partir du moment où on a connu ce lieu, qu'on s'est engagé dans ce lieu et qu'on est arrivé dans l'histoire, c'est qu'on n'avait peut-être pas connaissance, ou du moins on n'avait pas réalisé à ce moment-là toute la difficulté, les engagements que ça impliquait. Parce que c'est vrai que ça vend du bonheur, ça vend de l'espoir autant pour nous que ce qu'on essaye de faire pour les autres. Mais effectivement, pour que ce lieu continue à vendre cet espoir et toute la magnificence en lui-même qu'il peut proposer, derrière, c'est un travail de folie. C'est un travail de folie, déjà de Christelle et Nathalie au quotidien, et puis il y a aussi un peu tout ce qui est l'entretien derrière, du lieu, aussi bien la bâtisse qui nous concerne, on va dire nous, Christelle, Nathalie, moi en tant que propriétaire, que les parties entre guillemets publiques sur la propreté et en même temps l'accessibilité tout simplement, et puis derrière le travail du foncier en lui-même, donc le travail l'agriculture ou de l'agroécologie telle qu'on sait le faire. Et effectivement, c'est une niche aussi, pas que de bonheur, il y a aussi des moments où il nous est arrivé de partager notre divergence de point de vue, qui nous est aussi arrivé de se poser des questions, de la réflexion sur comment on va financer, parce qu'effectivement, c'est une question, le financement, et c'est une réalité. Et aujourd'hui, on essaye d'avancer du mieux qu'on peut tous les trois, malgré la réalité, en jonglant sur le système, parce qu'on ne peut pas se passer du système tel qu'il est. Et je pense à dire qu'on s'en sort plutôt bien. Pour une oasis au début, on s'en sort très bien.
Tu abordes des sujets intéressants, tu parles de ce fameux facteur humain qui revient systématiquement dans tous les oasis, dans tous les lieux, le PFH, tu parles aussi, je sais plus mais c'était intéressant, et ce facteur humain. Est-ce que quand on se lance dans ce type de projet, il y a des structures qui nous accompagnent? Parce qu'on est là, on nourrit un rêve, une envie d'une vie autre, plus en lien, plus en accord, plus aligné avec nos valeurs profondes. Mais comme tu le disais, il y a ce côté rêve et illusion, ou en tout cas réalité dans laquelle on se plonge, qui est des fois plein de paramètres auxquels on n'avait pas pensé. Donc est-ce qu'il existe des structures qui sont là pour nous épauler, pour nous accompagner, pour nous aider à ouvrir grand les yeux, pour voir peut-être tous les détails ou toutes les réalités qu'on n'a pas vues au départ?
Alors, je crois pas qu'il existe des structures à proprement parler. Récemment, il y a la fabrique des colibris maintenant qui a vraiment pris à cœur d'accompagner les oasis. Ça a été vraiment redynamisé depuis 2-3 ans. Aujourd'hui, il y a les compagnons qui proposent vraiment beaucoup d'accompagnement et d'aide sur tous les domaines et les thématiques qui peuvent émerger comme des problématiques dans les oasis.
Donc les compagnons oasis.
Voilà. Mais pour le coup, nous, on n'a pas forcément bénéficié ou sollicité d'ailleurs hein, de ce type d'aide ou d'accompagnement. On est un peu en stand-up. On crée le modèle. Après, on a des outils aussi. Moi, dans ma formation précédente, j'étais thérapeute. Donc, du coup, il y a tout ce qui va avoir trait à la communication, à un certain nombre de choses qu'on a essayé de mettre en place ensemble. Nommer des médiateurs, par exemple, pour pouvoir continuer à communiquer si un jour c'est compliqué pour nous. Et puis voilà. En ce qui concerne, par exemple, le volet relationnel, on a des rencontres régulières. On fait de notre mieux et on est en train d'apprendre. C'est ce que disait aussi Nathalie tout à l'heure. C'est un engagement très fort et c'est un choix de vie très exigeant sur le volet du développement personnel. Il faut être prêt, non pas être prêt à vivre béatement en communauté, entre guillemets, mais être prêt à se transformer. Je crois qu'on a tous des zones d'ombre, on a tous des peurs dont on parlait tout à l'heure. On a tous des moments où ça frotte à l'intérieur, à l'extérieur. Et la seule chose qui peut aider à ça, c'est être prêt à se transformer et à prendre ses responsabilités, à pas être dans j'accuse l'autre, parce que ça c'est stérile en fait dans les relations humaines. Et jusqu'à maintenant, on s'en sort vraiment bien, je trouve. Et Dieu sait si on est très différents tous les trois, et à la fois du coup très complémentaires. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude moi pour l'aventure humaine avant tout qu'on vit avec Nat et Romain, et puis aussi avec les gens qui viennent de l'extérieur. Et voilà, c'est ce qui est à mon avis le plus passionnant de tout ça.
Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
Au début, dans les piliers, vous me parliez de la souveraineté, donc cette envie d'aller vers une forme d'autonomie, ou en tout cas commencer à réfléchir, poser une réflexion sur l'habitat, sur l'énergie, sur l'alimentation. L'aspect économique, parce que ça fait partie de ces réalités aussi. Quand on veut aller vers ce type de projet, faut qu'on puisse aussi trouver le modèle économique qui nous permette quand même de subvenir à nos besoins, parce que l'autonomie à 100%, ça reste quand même une utopie, ou en tout cas ça prend du temps à se mettre en place.
À nouveau, moi je peux témoigner puisque j'ai été la première à embarquer et à créer le bateau en fait. Et il s'est trouvé que j'ai pu négocier un licenciement économique à l'époque avec ma boîte. J'étais en très bon terme avec ma direction. Et du coup, ça m'a vraiment laissé 3 années de transition où j'étais rémunérée par le Pôle emploi. Je continuais à assurer quelques missions de supervision, de formation dans mon ancienne entreprise. Mais voilà. Donc, la vie a fait que, la vie ou moi, ou j'en sais rien, mais en tout cas, ça a été possible parce que j'avais ce temps devant moi où j'étais rémunérée, où j'étais en sécurité matérielle. J'ai eu la chance aussi, dans mon malheur de divorcer, de revendre une maison et d'avoir un peu d'argent devant moi aussi pour que ça constitue un apport pour le premier financement. Et j'ai acheté avant de quitter mon boulot. Donc j'avais un bon CDI de cadre à montrer à la banque. Romain tout à l'heure disait on joue avec les règles du système. C'est un choix aussi. Je crois que c'est une des premières questions à se poser à l'intérieur. Soit on veut tendre vers une forme d'autonomie, mais personnelle, auquel cas on va aller trouver une terre un peu éloignée, justement, et préparer une autonomie pour soi et sa famille ou sa tribu rétrécie. Soit on souhaite aussi avoir un impact et pouvoir accueillir et pouvoir faire... on est en train de faire ici, et à ce moment-là, on peut pas encore s'exonérer. L'argent existe toujours, les banques existent toujours, voilà. Et le choix à l'époque, moi, que j'ai fait, c'est vraiment de plonger, au contraire, au cœur du système, de voir comment je pouvais utiliser le système à l'avantage de cette émergence. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On va toucher un certain nombre de subventions parce que maintenant je suis agricultrice. Donc, merci à l'État de nous aider et de financer une oasis à sa façon. On est sans cesse en prise avec les règles administratives d'une complexité sans nom. Alors là, c'est une émission de 18 heures qu'il faudrait pour que je puisse expliquer le fatras dans lequel on navigue perpétuellement. Mais ça se fait, en fait. Je crois que quand on suit ce chemin-là de vouloir contribuer à créer une autre réalité, si on est encore à l'intérieur dans une énergie où on lutte contre, c'est stérile. Je crois qu'il faut arriver à faire cette transformation de « ok, je suis plus en colère, je suis plus triste, voilà, c'est la réalité, elle est comme ça, le monde il est comme ça, donc maintenant qu'est-ce qu'on fait vraiment ?» Et on bascule de être en lutte contre à aller vers quelque chose. Et quand on va vers, ben alors ça devient plus fluide et on accepte la réalité comme elle est, et du coup on peut naviguer à l'intérieur de cette réalité. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, on devra rentrer dans une forme de militantisme, parce que là, nos valeurs seront vraiment trop impactées et trop à l'encontre de ce qu'on nous obligerait à faire. Mais pour le moment, on arrive à trouver... Nat et Romain vont pouvoir donner leur avis aussi, mais je trouve qu'on arrive à, avec le système, collaborer. Et c'est rigolo, tu vois, ici, on est une mairie de droite... bien de droite, par exemple, on aurait pu se dire ils vont nous voir comme une communauté de hippies qui s'installe, là ça va pas du tout le faire, mais tout le monde nous donne un coup de main, les agriculteurs du coin ils ont tous contribué à nous aider à l'installation, on a vraiment des super relations avec tous ces gens là, il y a une belle dynamique qui est en train de se créer de partenariat, et parce que en fait on s'est pas positionné comme contre. Mais on a juste dit voilà notre rêve et comment on peut tous le créer, quoi.
Donc Christelle nous a parlé un petit peu de la manière dont elle a réussi à mettre en place ce projet. Donc il y a effectivement des aides qui existent, mais il faut quand même aussi essayer de réfléchir à pérenniser le projet.
Alors la partie subvention est quand même bien maigre, hein. C'est une petite aide, certes, que Christelle a débloquée avec son statut d'agricultrice et son diplôme, que j'espère que bientôt Nat aussi débloquera à son niveau. Il y a un autre volet économique qui est important d'en parler, c'est que ce genre de projet, quand même, qui est une espèce de fédération pour les gens, enfin, c'est quelque chose qui fédère aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent la question de comment je vais faire pour l'autonomie, comment je vais faire pour manger mes légumes, est-ce que mes légumes actuellement que je mange sont de bonne qualité, donc il y a de plus en plus de systèmes de crowdfunding ou de donations qui représentent aussi une petite partie maigre pour le financement du projet, et peut-être à l'avenir on va relancer des campagnes en fonction de projets qu'on lancera. Actuellement, sur un domaine, on va dire, sur une plage de financement à long terme, ce que tu me demandes, il y a actuellement la vente de légumes ici qui est notre financement. C'est la rentrée d'argent première qu'on a. Ça, c'est la partie primaire du projet. Il y a une autre partie qui va être mise en œuvre, et ça fait partie des méandres administratifs que Christelle traverse. Ça va être la ferme auberge, donc l'auberge en elle-même avec la transformation de nos produits et la vente de produits entre guillemets dérivés, donc des extractions de jus de fruits par exemple qu'on pourra faire avec nos propres fruits ou un partenariat avec la BAP locale, donc la BAP c'est l'usine qui produit ses bières juste à côté, enfin une petite ferme qui produit ses bières juste à côté de chez nous,
qui peuvent amener des revenus, mais ça va être en seconde partie. Il y a aussi une partie qu'on va développer, mais là on l'a pas fait parce que c'est la première année. Il faut qu'on se jauge, il faut qu'on arrive à connaître nos limites. Mais une autre partie qu'on va mener, ça va être aussi la vente de pieds de fruits, de légumes. Donc par exemple, typiquement les tomates, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire, qu'on sait très bien mener, où on a pas mal de races anciennes, parce qu'on spécialise sur les races anciennes, où on peut vendre des pieds aux gens. Et ça peut commencer avec la tomate, ça peut aller avec plein d'autres choses, la courgette, les aubergines, peu importe. Donc ça, c'est sur le long terme ce qu'on envisage pour vivre. Et après, effectivement, je pense que quand on sera bien ancré, ou du moins quand on aura une vision pérenne de ce qu'on sait maîtriser, et ce qu'on maîtrise effectivement, c'est de proposer des ateliers, des stages. Effectivement, Christelle a mentionné le projet avec les jeunes personnes et les personnes seniors, la réinsertion à la terre. Donc effectivement, se servir, ou c'est peut-être pas le terme qui convient, mais... faire participer les animaux tels que les équidés, pour les enfants, faire un côté ludique, réapporter le sens de la terre aux enfants. Tous les parents qui ont connu cette époque où on n'était plus devant la télé et la PlayStation et où on allait dans les forêts pour construire des cabanes, ils sont contents de voir que les enfants se réintéressent à la terre, et nous on veut véritablement réapporter un système pédagogique. C'est un système qui est viable, parce que je pense qu'aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus de parents qui préfèrent venir nous soutenir, nous, même sans forcément en acheter du panier, mais juste nous soutenir par la présence ou par un petit don de maigre nature, mais qui est très utile et qui est très important, plutôt que d'aller dans les supermarchés passer le temps ou les magasins. Donc on est vraiment confiant, malgré les difficultés qui nous entourent, qui sont économiques, parce que c'est un projet qui se chiffre pas en dizaines de milliers d'euros, mais à une étape au-dessus. On est vraiment confiant, on pense que dans 10 ans, on sera encore là, et bien là.
Je repasserai dans 10 ans, en tout cas on observe dans la société civile un changement. Quand j'étais au collège, je me rappelle que le paysan c'était une insulte. Et aujourd'hui, les néo-ruraux, les maraîchers, tous ceux qui produisent de l'alimentation, ça devient un peu nos super-héros. Et on s'en est bien rendu compte pendant la crise, où finalement, c'est essentiel pour notre propre survie. Et des projets comme celui-là sont juste au cœur des préoccupations du système et sont pleins de sens. Merci à tous les trois. Merci Romain, Nathalie, Christelle. Merci. La Voix des Oasis, cette émission existe pour donner la parole à tous ceux qui ont fait le choix du sens et de la cohérence. Nous étions à La Nourrice, où Christelle, Nathalie et Romain nous ont présenté leur écolieu.
La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.